Ouais, ce sont des moments de joie au milieu de la tristesse aussi. C'est pas évident pour moi d'apporter un message dans certaines conditions. Cette semaine, avec Samuel et Marie-Ève et Isabelle, on a regardé tous les soirs. En fait, on essaie de regarder un film en version originale, en anglais, quoi. Et on a regardé la Bible. La Bible. Alors, si les enfants veulent monter.
Si les enfants, si vous voulez monter,
Et donc, on a vu quelques épisodes de la Bible. On est arrivé à l'arrivée de Jésus et ses miracles, etc. Mais il y a un des il y en est passé par Samson, alors période des juges, période de Genèse, Abraham, etc. Juge, roi. Et on est arrivé donc à la fin de la période des juges, période des rois, Saül, et bien sûr David et Goliath aussi. Et c'est vachement bien fait, je vous encourage à les regarder ces films avec vos enfants ou entre époux, épouses. Regardez ces films, ils sont vraiment intéressants. Et ça m'a interpellé au niveau de... sur un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est la grâce. Et j'avais déjà parlé de ce sujet il y a quelques mois. Et j'avais parlé de Méphibosheth. Vous vous souvenez Méphibosheth? Vous connaissez Méphibosheth? Bon, c'est pas un nom qu'on donnerait à nos enfants, hein? Faut le dire, hein? C'est pas un nom qu'on va donner à nos enfants. Mais pour vous situer, dans 2 Samuel, au chapitre 4, verset 4... Il est écrit, Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Et dans sa précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. À cette époque, on le voit bien dans le film, quand un roi était destitué, toute sa famille passait par le fil de l'épée. On tuait ses enfants, toute sa famille, on les tuait tous, quoi. Et David, devenant roi, allait agir différemment envers ce pauvre homme. Au chapitre 9 de 2 Samuel, c'est-à-dire 15 à 20 ans plus tard, on retrouve Méphibosheth. David n'a pas agi. D'ailleurs, David, plusieurs fois, on voit dans l'histoire biblique, que plusieurs fois, il est à la merci de Saül. Ou plutôt, Saül est à la merci de David. David peut tuer Saül, mais il ne le fait pas parce qu'il respecte Dieu. Il respecte le roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un serviteur de Dieu, il a été placé là, et David se dit, non, je n'ai pas à le toucher. Même si lui m'en veut, je n'ai pas à le toucher. C'est quand même beau, hein, de voir ce cœur pour le Seigneur. Hein. Et... Donc les années ont passé, David est sur le trône royal, il a vaincu tous ses ennemis, et la prospérité règne dans son royaume. Soudain, un esprit de compassion, quelque chose, s'empare de David, et il va rechercher donc des personnes, des membres de la famille de Saül. Puis vous savez très bien que Jonathan était le meilleur ami de David, hein, donc de Jonathan. Souvenez-vous, dans 1 Samuel 20, chapitre 20, versets 13 à 17. David avait contracté une alliance avec Jonathan. Jonathan s'adressa à David. « Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir. » Vous voyez, le fils de Saül. « Afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel. » Et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui. Au nom de son affection pour lui. Car il l'aimait comme lui-même. Alors David décide donc de retrouver les membres de la famille de son ami Jonathan. Pour leur faire du bien. Pour leur faire du bien. Là, on ouvre notre Bible dans le chapitre 9, dans le chapitre 9 de 2 Samuel, au premier verset. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ?» En fait, David, si on paraphrase un petit peu cette phrase, hein, il dit, « Y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül envers qui je pourrais démontrer la même grâce que Dieu m'a démontrée ?» David ne dit pas, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül qui mérite que je lui fasse du bien? Y a-t-il quelqu'un d'intelligent, de fort, de sérieux, de beau, de digne? Y a-t-il quelqu'un de capable pour m'aider à régner? Pas du tout. David dit simplement, y a-t-il quelqu'un? 2 Samuel, toujours, chapitre 9, versets 2 et 3. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Est-ce que tu es Tziba ?» Et il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Perclus des pieds, ça veut dire boiteux, quoi, hein, infirme, estropié, invalide. » Handicapé. Alors, c'est marrant parce que la réponse de Tziba, elle est un peu, on va dire, douteuse. Parce qu'il dit, il y a quelqu'un, mais... ouais, je doute que ce gars-là puisse te servir à quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars pareil, finalement? C'est un infirme. Il n'est pas à la hauteur. Il va falloir constamment l'assister, constamment être là, à l'encourager, etc., à le porter. En plus, il n'a pas grand-chose de royal en lui. Hein. Je dirais s'il était une pizza, on dirait que c'est une marguerite sans olive. Pas terrible. Vous savez, avec le temps, j'ai fini par me méfier, enfin d'être, pas méfié, mais d'être... comment dire, de prendre du recul sur les gens qui ont trop de dons, trop doués. C'est vrai qu'il y en a. Mais les gens qui ont des capacités énormes, parfois, je vous avoue, souvent, j'ai vu que ça cachait quelque chose. Souvent. Et là, le roi lui dit simplement, où est-il? On a affaire à un perclus des pieds, quelqu'un qui est misérable. Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. » 2 Samuel 9, 4. David ne discute pas. Où est-il? Mephibosheth habite dans un lieu qui s'appelle Lodébar. Lodébar. Lieu sans pâturage, dans l'hébreu. Terre sans pâturage. 2 Samuel 9, toujours chapitre 9, versets 5 et 7. Je ne sais pas s'il arrive à les mettre en même temps. José. Chapitre 9, versets 5 et 7. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. » Sois sans crainte. Vous imaginez le gars, il vit dans un endroit, mais perdu, quoi. Terre sans pâturage. Hein. C'est vraiment, voilà. Pire que ça, il n'y a pas. Il se retrouve, alors peut-être dans une baraque, on devait lui filer à bouffer parce qu'il devait, je ne sais pas ce qu'il cultivait. Hein. Voilà, on devait le nourrir, il était assisté, cet homme-là. Et voilà qu'il se retrouve où? Au palais royal, à la table du roi. J'ose citer Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dieu, je fais un parallèle, hein, est devenu ton Père céleste. Tu es un enfant de Dieu. Il a envoyé son serviteur pour venir te chercher là où tu étais. Tu boites. Tu as mal quelque part. Il y a quelque chose qui, dans ta vie, tu aimerais que ça n'existe pas, que ça te permettrait, tu crois que ça te permettrait d'aller plus loin, en tout cas, d'être un peu plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Dans ton église locale, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais finalement? Pas grand-chose. Oui, je fais, mais finalement, il y a tellement de choses dans ma vie qui me bloquent. Tellement de choses qui m'empêchent de marcher à la vitesse que j'aimerais marcher. Sois sans crainte. Sois sans crainte. David n'a pas retrouvé Méphibosheth pour le punir ou pour lui mener la vie dure, mais pour lui faire du bien. Dieu ne s'est pas révélé à nous pour nous attendre au tournant à la moindre erreur. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu s'est révélé à nous pour notre bonheur et non pour notre malheur. Même si c'est difficile parfois. La vie est difficile. Le catéchisme de Westminster du XVIe siècle dit « Le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu, mais écoutez la suite, et de se réjouir en lui à tout jamais. » Voilà, voilà ton avenir, il est là. Glorifier Dieu et te réjouir en lui à tout jamais, pour l'éternité. 2 Samuel, on revient à 2 Samuel, chapitre 9, verset 8. Méphibosheth se prosterna et dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» L'image de soi, bonjour, hein, à l'époque où on vit, où c'est tellement important, ben, il avait une très mauvaise image de lui, hein, Méphibosheth. Un énorme complexe d'infériorité, ça se comprend, handicapé. Méphibosheth se décrit comme quelqu'un qui n'a aucune valeur en lui-même. Méprisable, indigne de toute attention de la part du roi. Verset 10, Samuel s'adresse à Tsiba, serviteur. Alors lui qui est arrivé en disant, oh, ouais, il reste encore un type là, voici. Le fils de Jonathan, là, ouais. Franchement, perque-lui des pieds, il ne te servira à rien. Ah ouais. Samuel s'adressa à Tsiba. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. Un invalide à la table du roi. C'est pas beau, ça? Qui a mis le tampon valide, apte sur la vie de Méphibosheth? Tsiba? Samuel? Qui a mis le tampon valide? Le roi. Qui a mis le tampon valide sur ta vie et sur ma vie? Qui? Le roi. Le roi des rois. C'est pas moi qui mets le tampon sur ta vie, c'est pas toi qui mets le tampon sur ma vie. C'est Dieu qui met le tampon sur notre vie. Dieu qui appelle. Et son appel est irrévocable. Apte. 2 Samuel 9, toujours. Méphibosheth, verset 13. Habiter à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Vous savez ce que ça veut dire, Jérusalem? Habitation ou possession de paix. Ça change un peu de la terre sans pâturage. Hein. Vous voyez, il a fait le... ça change un peu, quoi. Alors, je ne sais pas si on imagine. Hein. On se met dans le contexte, d'accord? La royauté, le roi, David. Dans le film, c'est super bien fait. Ils sont tous là, tu vois. Les guerriers, il y a même Uri, l'histoire avec Bathsheba. Waouh! Terrible. Quelques années plus tard, au palais du roi, la cloche sonne. C'est l'heure du repas. Le roi David vient s'asseoir en bout de table, vous savez, sur ces énormes chaises, là, enfin ces fauteuils, je ne sais pas comment on appelle ça, un trône, ben oui. Ouais. En bout de table, quelques secondes après, arrive Amnon, très capable. Amnon, très capable, très sûr de lui. Un guerrier vient se mettre à côté de David. Et puis arrive Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar ? Elle vient s'asseoir près d'Amnon. Jolie, jolie femme. Puis arrive en même temps Salomon. Tiens, le petit Salomon arrive avec un papyrus à la main. Toujours dans les bouquins, ce gamin. Incroyable. Un beau jeune homme instruit, bac plus 12. Plein de sagesse. C'est quand même incroyable cette table. Hein. Puis arrive un gars, mais tu vois, quand il marche, on dirait un peu Usain Bolt. Les filles craquent. Tout, elle va être tout assis à côté de lui. Ce gars-là, il a tout. Hein. Puis arrive Joab. Vous savez, Schwarzenegger dans Conan. Vous avez vu Conan le barbare ? Voilà, c'est pareil, c'est lui. Joab, il arrive plein de muscles. Le gars, il s'assoit près du roi. Paf, ça rigole pas, la table du roi. Ah, ça rigole pas. C'est la crème. Hein. Et tous sont assis et ils attendent. Et puis d'un coup, on entend la porte du fond s'ouvrir. Puis on entend boiter. Ah, c'est lui. Il arrive. Méphibosheth. Rien que le nom, c'est une horreur. Il arrive doucement, il traîne la patte, hein, comme on dit. Deux béquilles, il s'assoit à peine. Oh là, c'est dur, hein. Et puis la nappe vient recouvrir ses jambes. Cette nappe blanche. Il est là, l'handicapé. Hein, le boiteux qui avance comme un escargot. Il a attendu 10 minutes. Presque c'était froid le repas, tu vois. Mais ouais, il est quand même là. Pourquoi ? Parce qu'il est invité en permanence à la table du roi. Alors j'imagine très mal Joab, Absalom ou Salomon arriver à la table du roi en disant « Oh Seigneur, voilà, c'est moi, hein, j'arrive. Hein. » Parce que tu as vraiment de la chance de m'avoir à moi, hein, mon roi. Parce que qu'est-ce que tu aurais fait sans moi ? Je pense que sur terre, tu n'en trouveras pas deux comme moi. Hein. Je suis l'unique, le seul. Hein. On a cassé le moule. D'ailleurs, Seigneur, quand je vois ce que je vois et ce que j'entends, franchement, lui, là, j'ai raison de penser ce que je pense, finalement. Parce qu'il y en a, je ne donne pas des noms. Ça commence par M, Méphibosheth. Il me coupe l'appétit, celui-là. Et l'autre, la gonzesse là-bas, Tamar, bref. 5 remarques. La première, c'est que Méphibosheth est devenu infirme à cause d'une chute. Depuis le jardin d'Éden, mes amis, nous sommes tous devenus des infirmes. Ça fait pas mal d'années, mais nous faisons les choses sans Dieu, nous menons notre vie loin de Dieu, et ça a des conséquences. L'humanité vit sans le Seigneur. Et il ne faudrait pas croire que les conséquences de cette chute vont disparaître du jour au lendemain, même lorsqu'on est près de Dieu. Son esprit va nous transformer peu à peu. Peu à peu. Mais les 100% de la perfection divine, ça sera pour la fin. C'est pas pour aujourd'hui. Mais il nous transforme. On hérite tous de cet handicap qui nous sépare de Dieu. Cet handicap s'appelle le péché. Et le péché nous rend inaptes devant Dieu. À part si lui, dans sa bienveillance, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, nous déclare aptes. Aptes au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxièmement, le roi David manifeste sa grâce envers Méphibosheth à cause de son amour pour Jonathan. Il le dit clairement. Et Dieu manifeste sa grâce envers nous à cause de son amour pour son fils Jésus-Christ. Éphésiens 1, versets 4 et 7, Dieu le Père, entre guillemets, dans son amour, nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer quoi ? La gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon quoi ? La richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Troisièmement, Méphibosheth est bon à rien. Il ne possède rien, ne mérite rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est accepter la grâce de Dieu humblement, cette grâce abondante du roi. On ne peut pas gagner quoi que ce soit de la part de Dieu. Notre état naturel nous sépare de lui. Notre état naturel nous sépare de lui. La seule chose que nous pouvons faire, c'est accepter ce cadeau, ce don gratuit, et se laisser transformer par lui. Éphésiens 2, versets 5 à 8. Nous qui étions morts par nos fautes, c'est-à-dire à l'eau des barres, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a assis à la table du roi afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de quoi ? Surabondante de quoi ? De sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, c'est par la grâce que, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quatrièmement, David sait très bien qu'il est devenu roi uniquement grâce à Dieu. Il le doit à Dieu. Il le doit à Dieu. Il n'a pas cherché à gagner sa place. Il n'a pas essayé de tuer Saül lorsqu'il en avait l'occasion. Non, il n'a pas joué les coudes. Il n'a pas joué la carte du piston. Il a laissé agir Dieu. Il honore Dieu. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, nous dit l'Épître aux Éphésiens. C'est important. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alors, je lui pose des questions, j'aime bien. Est-ce que tu te sens au niveau ce matin ? C'est là la question. Est-ce que tu te sens plus au niveau que ton frère ou ta sœur ? Est-ce que tu te souviens de la première béatitude ? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Et Méphibosheth, il est dans cet état d'esprit. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car ils voient leur misère, leurs péchés, leurs échecs. Ils pleurent sur eux-mêmes. Malheureux ceux qui sont inconscients de leur pauvreté spirituelle, car ils voient la misère des autres, les péchés des autres, les échecs des autres, bien sûr avant les leurs. Heureux ceux qui réalisent la grâce pour eux-mêmes. Et de ce fait, ils deviennent tellement plus patients. Vous savez, comme cette femme, cette prostituée au pied de Jésus dans la maison de Simon le pharisien. S'il savait qui était cette femme. Ah oui, mais elle a beaucoup aimé, elle sera beaucoup pardonnée, parce qu'elle a bien compris qui elle était. Heureux ceux qui savent que leur nature héritée d'Adam ne s'améliorera pas, quoi qu'ils fassent. Tu crois que le Saint-Esprit va améliorer ta nature ? Faux. C'est ta nouvelle nature qui compte. Ton ancienne nature, elle restera dans la poussière. Le Seigneur ne fait pas du rafistolage avec nous. Il fait du nouveau. Il ne change pas simplement le canapé du salon et les fauteuils. Il change tout. Il change la maison. Tu déménages. Mais c'est ça. Franchement, il faut le voir comme ça. Ne pensons pas que nous pouvons améliorer notre vieille nature. Ce n'est pas possible. Si ça aurait pu être, ça aurait été fait bien avant. Hein, bien avant que Jésus arrive. Jésus n'est pas venu améliorer notre statut, mais nous en donner un autre. Nous donner une autre nature. Heureux ceux qui sont conscients d'avoir besoin d'une autre nature, celle de Christ. Ne soyons pas dans la crainte, mais soyons heureux. Car, comme le dit Paul aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus. Thomas d'Aquin disait, la grâce ne fait pas disparaître notre nature, mais elle l'achève. La grâce ne fait pas disparaître notre nature, elle l'achève. C'est le coup de grâce. Elle l'achève. Cinquièmement, l'infirmité permanente de Méphibosheth, finalement, lui rappelle constamment la grâce du roi. Réfléchissons un peu. À quel moment dans notre vie, nous sentons que notre vieille nature est en train d'être mise à mort? Dans quelles circonstances? Lorsque nous sommes victorieux, lorsque nous sommes satisfaits de nous-mêmes, c'est là que nous sentons que notre vieille nature est mise à mort? Non. C'est lorsque nous sommes en situation d'échec. Lorsque nous boitons. Lorsque je me regarde vraiment et que je crie, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est trop, parfois. Et mon roi vient à moi. Il me prend dans ses bras, il me dit, mais j'ai payé pour toi, regarde. Tu vois mes mains? Je suis ton roi, regarde ma couronne d'épines. Sois sans crainte, tu es assis à ma table, prends courage. Sixièmement, le roi a sorti Méphibosheth de Lodébar pour qu'il vive dans son royaume. Lieu sans pâturage, il est passé dans le lieu avec des pâturages. Jean 19, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, sortira, trouvera des pâturages. Vous savez, entre Lodébar, terre sans pâturage, et Jérusalem, la possession de paix, c'est le jour et la nuit. Parce que à Lodébar, c'est la religion. Tout tourne autour de soi. On est le centre de ce qu'on fait, pas le roi, mais c'est nous le centre. On fait du bodybuilding religieux. On réussit à la force de ses poignets. On réussit parce qu'on a mis des bonnes chaussures. L'amour à Lodébar, il est toujours sous condition. Et si dans notre tête nous vivons encore à Lodébar, nous sommes des religieux. Nous vivons dans un désert spirituel. Parce qu'à Lodébar, c'est la terre sans pâturage. Et ici, c'est le palais royal. Vous savez, la religion pense souvent Dieu en fonction d'une distance à parcourir. Il faut faire des choses. Il faut se cracher dans les mains pour avoir de bonnes chaussures, pour réussir. Et dans notre esprit, nous avons tous une image de ce que devrait être ou doit être un chrétien. Quel danger lorsque nous commençons à dire... Je suis content de moi. Quel danger. Quand je commence à dire, je suis vraiment pas mal du tout. Je ne suis quand même pas un si mauvais chrétien que ça. Il y a pire. Et là, c'est le danger. Alors, est-ce que tu te sens au niveau ce matin? Il y a pire. Méphibosheth ne pouvait pas avoir cette attitude. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la grâce du roi. Pas la théorie de la grâce, mais la grâce en pratique. Un déménagement. Parce qu'il ne se voyait pas plus que ce qu'il était, c'est-à-dire un handicapé invité. Un invalide déclaré valide. Et pour vivre dans ce même état d'esprit, l'apôtre Paul nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, par la grâce qui m'a été donnée, il le dit, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Dans Colossiens, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous et faites-vous grâce. Soyons des modèles, oui, mais des modèles de grâce. Qu'est-ce qu'un chrétien finalement? Fréquenter des lieux chrétiens? Chanter des chants chrétiens? Avoir des activités chrétiennes avec des chrétiens? Dire bonjour à des chrétiens? C'est ça un chrétien? connaissez le prophète Zacharie? Vous connaissez? C'est dans les petits prophètes, Zacharie. Il a exercé son ministère lorsque Jérusalem, ses murailles et son temple avaient étaient en ruine. Plusieurs réveils successifs avant l'arrivée du prophète, mais le peuple s'était quand même enfoncé dans la rébellion. Dieu dut conduire son peuple à l'exil babylonien. 70 ans de captivité avant que certains commencent à retourner à Jérusalem. Un retour qui s'est fait en plusieurs étapes sous la conduite de Zorobabel dans Esdras 1 et 2. Et 70 ans plus tard, d'autres encore rejoignirent Jérusalem, Esdras 7. 13 années et Néhémie se rend à Jérusalem pour diriger la construction, la reconstruction de la muraille. Encouragé par les paroles de Cyrus, Zorobabel, quant à lui, entreprend la reconstruction de l'autel et de la maison de l'Éternel. Mais voilà, les adversaires étaient nombreux et le peuple était flagada, apathique, découragé, fatigué, las. Les travaux se sont arrêtés pendant 15 ou 16 ans. Essayez de remettre en parallèle ce que nous avons vécu dans notre Église ces dernières années. Faites-le. Flagada. Zorobabel comptait alors sur l'appui des prophètes pour redonner de la motivation au peuple. Dieu a d'abord envoyé le prophète Agé. Aucun prophète n'a eu à cœur ce projet autant que lui. Mais contrairement à Zacharie, ses propos étaient sévères, durs. Dieu savait que le peuple allait se décourager. Et ce n'est pas ça dont le peuple avait besoin. Alors c'est vrai que Dieu était au courant qu'il y avait de dures épreuves qui allaient arriver. Récession, famine, persécution, crise. Le peuple devait passer par là pour que le message du prochain prophète soit entendu. Zacharie, accessible, parole d'encouragement, qui magnifiait la personne de Dieu au lieu de tirer sur l'ambulance. Et il le fallait, vous allez comprendre pourquoi. On ouvre notre Bible et on lit dans Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Alors l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Quelle acclamation? Grâce. Grâce pour elle. Grâce. Grâce pour elle. Les mots puissance et force, ça définit la force humaine, ce qu'on peut travailler, l'énergie que peut avoir notre chair. Parce que notre chair, notre vieille nature, elle a de l'énergie. Il faut qu'elle soit mise à mort. Mais elle a de l'énergie. Elle peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec la chair. On peut faire beaucoup d'œuvres mortes avec la chair. Impossible à un gars comme Méphibosheth d'avoir ce genre d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la grâce. Un certain Théodore Letch a fait un travail d'étude sur les petits prophètes. Voilà ce qu'il écrit sur ce que nous venons de lire de Zacharie. Les deux mots hébreux, puissance et force, dénotent la force intérieure, la puissance naturelle, la bravoure, le courage, la force morale, ainsi bien que la main-d'œuvre, un grand nombre de soldats, de richesses, des dirigeants, d'organisations bien coordonnées, de bons systèmes financiers, etc. L'œuvre de l'Éternel, la construction de son temple, la croissance intérieure et l'expansion de son Église ne peuvent être réalisées par de simples moyens externes. La force et la sagesse humaine seules failliront. Mon esprit doit le faire. L'œuvre de Dieu ne sera accomplie ni par la force humaine, ni par la puissance de la chair. C'est un message pour nous aujourd'hui. Franchement. On est tous et tous des petits méphibochettes. Parce que la puissance de la chair donne de vrais résultats. Croyez-le. L'ingéniosité humaine donne des résultats. Ça marche. Ça marche. faut dire aussi que les résultats sont tellement gratifiants parfois, au point de nous faire tomber parfois dans un état d'esprit de pharisien. Souvenez-vous la prière, hein, le pharisien et le collecteur d'impôts. Le pharisien qui disait « Ah, heureusement que moi je ne suis pas comme lui, hein. Heureusement que je ne suis pas comme le reste de ces gens-là. Hein. » Voilà la prière du pharisien. Et le collecteur d'impôts qui se tapait sur la poitrine dit « Oh là là, mea culpa. » Je ne vais pas aller plus loin. Nous avons parlé de Méphibosheth. On aurait pu parler de Jonas, qui votait Front National. Le salut, c'était que pour les Israélites, pas pour les Ninivites. Raison pour laquelle Jonas a même fait la grève du ministère, la grève de la prédication. On aurait pu évoquer le fils aîné de la parole du fils prodigue, le chrétien au col blanc. Au top, il ne veut pas rentrer dans la maison parce qu'il pense que son frère n'est pas assez sanctifié. Il n'a pas assez changé. Il n'a pas assez montré tous les signes de la sanctification. Véritable repentance, le vrai évangile. Il sent encore trop le monde. Il sent mauvais, il sent la clope. Et l'odeur des prostituées. Bref, le fils aîné n'était pas touché par la grâce. Son comportement ressemble beaucoup à celui de ce pharisien qui priait. Méphibosheth a été touché par la grâce. Est-ce que tu as été touché par la grâce? Est-ce que ce matin tu veux tendre les bras à la grâce? Est-ce que tu veux ce matin ouvrir ton cœur à la grâce? Est-ce que tu veux repartir avec la paix de Jésus, avec la grâce? Mes amis, nous sommes inaptes à nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de sa mort. Nous sommes inaptes à nous changer nous-mêmes. Nous avons besoin de sa grâce. Nous sommes inaptes à mener une vie sainte. Nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Nous sommes inaptes à porter du fruit par nous-mêmes. Nous avons besoin de sa vie en nous. Parce qu'autrement, on peut faire beaucoup de choses, mais sans sa vie. Moi, je veux bien être un mendiant de la grâce. Pas vous? Que Dieu bénisse sa parole, je vais prier. Seigneur, merci pour la Bible encore, au travers de laquelle on peut réfléchir sur ton œuvre, on peut découvrir qui tu es. Merci pour cette histoire qui, finalement, est un type de ta relation avec nous. La relation du roi avec ses sujets. Seigneur, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que, bien trop souvent, je néglige ta grâce. Bien trop souvent, Seigneur, je compte sur mes propres capacités plutôt que sur les tiennes. Et Seigneur, veuille conduire ton église locale dans cette grâce pour les autres. Seigneur, que ceux qui nous approchent puissent ressentir la différence entre la religion et toi. Qu'ils puissent la ressentir au travers de nous, au travers de ce que nous vivons, au travers de notre façon d'enseigner, au travers de notre façon de vivre l'Église, nos vies de famille. Seigneur, que ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas puissent être touchés par la grâce. Je pense à nos familles, je pense à nos voisins, je pense à ceux que nous côtoyons dans notre travail, dans nos activités. Seigneur, veuille vraiment te servir de nous pour que ceux qui nous entourent puissent goûter à cette grâce surabondante que nous avons en Jésus-Christ. Amen.